Salut à tous, je suis Kevin Le Goff, fondateur de Lobby, bureau d'idées dédié à l'hospitalité artisanale, avec laquelle nous créons des marques et des espaces pour faire de nos lieux de réelles destinations. Et à travers ce podcast, je suis ravi de vous partager la lecture de celles et ceux qui donnent vie à ces lieux, partagent leur histoire et l'âme qu'on y trouve. Des conversations avec des architectes, photographes, propriétaires, designers et artistes pour nous alimenter sur comment faire de nos lieux de réelles destinations. Un podcast à retrouver tous les 15 jours sur vos plateformes préférées. Merci à tous, vous écoutez.
Il podcast della Lobby.
Oh bah, a vingella, visto di olio nella.
Aujourd'hui, je reçois Pierre et Malo, les deux fondateurs hyperactifs de Works Agency. Et Works est un studio créatif dédié au retail design et à l'imagination d'expérience sur nos lieux de vie. Et donner vie à une marque de retail en dehors de son produit, c'est ce qu'anime ce duo originaire du Sud-Ouest, pour qui l'agence accompagne des marques comme Dickies, DB Journey ou encore Polaroid, pour qu'ils imaginent des concepts de présence en boutique. Pierre et Malo nous partagent la naissance de Works, il y a 10 ans maintenant, et la lecture de l'expérience quand il s'agit de faire vivre un espace pour nos clients. Très bonne écoute à tous, vous êtes sur Lobby Talks. Bon allez, salut les gars. Donc là je reçois Malo et Pierre, les fondateurs de Works. Comment ça va ?
Ouais, salut Kevin, ça va très bien.
Salut Kevin, ça va ouais.
Malo, faut que tu te rapproches du micro, je crois, quand tu parles.
Non, en vrai, ça va. Franchement, ce qu'on fait, on reste comme ça, on va s'entendre, il n'y a pas de soucis. Là, je vois de mon côté, tu vois, ça fonctionne. Et merci de m'accueillir chez vous, là.
Eh bien, écoute, je te remercie à toi de nous donner cette opportunité. On est sur un petit rooftop. On est en lendemain du jour 1 de Maison et Objets. Et on est très content de pouvoir discuter de tous ces sujets autour de l'hospitality avec toi, notre cher Kevin.
Parfait.
Exactement.
Voilà. Magnifique. Ce qu'on va faire, c'est on va se faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne vous connaissent pas.
Okay.
Ouais. Donc j'ai avec moi Malo et Pierre. Pierre et Malo. Pierre qui parlait là.
Juste c'est ça.
Et je te propose de commencer, Pierre. On passera le micro à Malo après.
Allons-y.
Et te présenter, faire une petite passe sur ton parcours.
Carrément. Je commence. Et donc moi c'est Pierre Grelzamer, et j'ai fondé Works, donc Works Agency Studio, qui s'écrit WRKS, mais qu'on prononce Works, il y a 9 ans maintenant. Et moi j'ai plus un, donc là on va parler de design, et ce qui est drôle c'est que moi je veux, à l'inverse de mon acolyte qui lui est un vrai designer, moi je me définis plus comme un entrepreneur, et j'ai un parcours plutôt basique dans le sens où voilà, j'ai fait un IUT Tech de Co, ensuite j'ai rejoint une école de commerce, et derrière cette école de commerce j'ai eu plusieurs projets entrepreneuriaux avant d'en arriver là, et j'ai un gros background où j'ai toujours travaillé sur des sujets plutôt marketing et stratégie pour des marques, donc en tant qu'annonceur du côté Action Sport. Donc Action Sport, ça va être toute l'industrie de la glisse. Et en l'occurrence, bah, j'ai commencé chez Rip Curl. J'ai fini chez Volcom. Et en fait, au bout d'un moment, je me rendais compte que ce qui me faisait kiffer dans ce business-là, c'était la partie où il fallait réfléchir à des campagnes, à des idées, toute la partie plutôt créative. Et en fait, quand tu es chez annonceur, bah, en général, tu as 2 campagnes par an, allez, max 4. Et moi, je me rendais compte qu'en fait, je me faisais chier au bout d'un moment. Et on s'est dit, bah tiens, en fait, rassemblons nos skills. Et du coup, moi, j'étais pote avec les designers des marques. Et je me suis dit, bah venez, au lieu d'en faire 4 campagnes, moi, faisons-en 10, tu vois. Et allons voir d'autres marques et les démarchons. Et Works, c'est parti comme ça, quoi. Et au départ, Works, c'était, ouais, on était plutôt une agence. Il y avait un petit côté un peu foufou, 360. On était là en train de dire on peut tout faire, tu vois, du graphisme, du lieu, du dessin, bref. Et après, ça s'est affiné, donc ça, on y reviendra. Mais voilà, nous voilà donc aujourd'hui ici, après voilà, 9 ans d'activité Works. Et j'ai Malo, mon associé avec moi, Malo de Saint-Malo, qui lui est un vrai designer et designer d'intérieur, qui a été une grosse plus-value, un gros tournant dans Works, et qui lui va vous raconter son parcours.
Carrément, et comme ça on reviendra un peu sur le projet après. Ouais. Plein de questions
bien
à vous
sûr,
poser,
bien
les gars.
Sûr. Bah écoute, du coup, là, je m'appelle Malo et.
T'es bien là, parfait, t'en as pas.
Designer et parcours un peu similaire à Pierre dans le sens où avant d'arriver dans l'agence, tu vois, on était chez l'annonceur. J'étais plus sur la partie retail marketing, donc tu vois, créer des concepts, mettre des campagnes en magasin. Les rendre réels, si tu veux, adapter un petit peu tous les assets qui étaient créés. et une grosse appétence pour le design d'intérieur. Tout ça, c'est complètement autodidacte. Je n'ai pas fait d'école, j'ai fait une école de communication. Donc rien, tu vois, j'ai pas appris ça à l'école, autodidacte et juste passion en fait. Et voilà, design intérieur, l'espace, pour que ça soit beau, un petit peu visuellement agréable, voilà, tout ça, c'est ce qui m'animait, quoi.
Et du coup, vous parlez de 9 ans d'existence là sur ouais. Works. À quel moment vous êtes retrouvés? Vous pouvez me raconter un peu les débuts. À quel moment tu te dis en fait, je passe de l'autre côté? J'ai plutôt envie d'être entrepreneur. Pierre, tu commences à en parler là.
Ouais.
Comment ça s'est lancé? Tu me racontais la petite histoire en off là tout à l'heure.
En fait, comment ça s'est lancé? En vrai, ça s'est lancé parce que le moment où on a décidé de lancer le truc, il nous fallait un premier client. Et donc moi, mon dernier job, je bossais au marketing pour Volcom et Electric, donc tu vois dans l'anglais. Et à force de faire des events, j'avais un réseau de potes qui étaient tous soit brand manager ou directeur marketing. Et à ce moment-là, on a Vance. On explique à Vance ce qu'on fait et le directeur marketing de Vance qui nous kiffait bien. Je lui dis bah ok les gars, je vais vous lancer. Et tout est parti d'un premier corner. On a redessiné, refitté un corner Vance à Citadium. Et là, ça a été notre première mission, entre guillemets, un petit peu retail design. Je crois qu'on n'appelait même pas ça retail design encore à l'époque. Et où on s'est dit, tiens, ok, on part, donc on a un lieu qui est une petite zone. Et il faut venir raconter une histoire et élever le discours de la marque. Et tout en gardant, tu vois, comme objectif que c'est pas juste du waouh, il faut que derrière, bah, ils vendent, quoi. Donc nous, notre rôle, il est parti de ça. Et c'est comme ça que petit à petit ça a commencé. Et
Toi, Malo, t'étais pas là à ce moment-là.
J'étais pas là, pas encore. Tu vois, ils ont vraiment monté l'agence au début. Et moi, je les ai rejoints après, il y a 3 ans. Et en fait, je crois que la question c'était comment on se lance, à quel moment on passe de l'annonceur à la.
Ouais, ouais. Enfin, comment est né le projet? Ouais. Là, il y a une question qui est intéressante. J'en reparlerai après. Mais à quel moment vous retrouvez. Enfin, vous lancez l'agence. Mmh. Il se passe un certain temps.
Ouais.
Toi, tu rejoins. L'agent, 6 ans après, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et en fait, il y a une question de timing, il y a une question aussi, je pense, moi, j'avais un peu fait le tour de mon taf, si tu veux, et des différentes missions. Et c'est une question de timing et puis de confiance en soi à un moment. Toi, c'est de se dire, ok, c'est bon, j'ai les armes, je suis prêt à passer le cap, tu vois, et on y va, en fait. Toi, j'avais toujours ce truc à me dire, j'aurais peut-être dû rejoindre l'agence un peu avant. Et en fait, tu fais tes armes dans les boîtes quand même, tu apprends beaucoup, tu as les process, tu apprends plein de choses. Et le jour où tu passes de l'autre côté, tu te dis, c'est bon, on y va. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut imaginer. Tu vois. Des fois, tu te dis, ouais, c'est l'entrepreneuriat. Puis il y a beaucoup de gens qui te freinent. Tu vois. Ça, c'est un truc, je ne sais pas si tu l'as senti toi, Pierre, mais il y a beaucoup de gens qui disent, c'est très CDI, t'as ton job, c'est attention, si t'as ta boîte, t'as des charges, t'as ci, t'as ça, c'est très dur. Et moi, j'ai eu un petit peu ça au début, tu vois, autour de moi. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de le faire, donc tu vois, j'y vais, quoi. Et ce qui était cool, c'est comme Pierre a quand même monté la structure avant, il y avait un passif, tu vois, ça existait.
Ouais, c'est vrai. On dit souvent qu'une boîte, il faut qu'elle ait. Enfin, bon, on a toujours dit ça.
Il faut qu'elle ait 3 ans.
Ouais. 3 ans.
Ouais, c'est ça,
si t'as passé le cap des 3 ans, c'est qu'a priori.
Ça roule, mais.
C'est vrai qu'il va tenir la route, quoi.
Ouais. Mais il y a un vrai truc, tu vois, là-dessus. Enfin, pour passer le gap, du coup, en disant, tiens, t'es salarié, je suis mon propre boss, tu vois, ou j'ai ma boîte, il y a un vrai truc, je trouve.
Non, et puis c'est intéressant ce que tu disais, Pierre, c'est que pour le coup, vous avez démarré le projet avec un client.
Ouais.
Oui.
Tu vois, où le truc où. Souvent, je pense que tu as plein de boîtes qui vont se lancer, tu vois, sans envisager le premier euro.
Mais quand je te dis ça, on avait lancé ce projet-là, et alors je ne sais pas à quel point on peut raconter ça, mais j'ai vraiment rien à cacher, mais ce premier projet de client, si tu veux, c'était un test. Nous, on avait l'idée en tête, on avait le scénario, enfin, on se vendait comme une agence, mais on n'avait même pas de numéro Siret, on marquait numéro Siret en cours. Et le premier projet, c'était nos rips perso, puis là, on s'est dit, ok, là, ça fonctionne, donc peut-être quand même qu'on crée une vraie boîte, quoi, qu'il y ait une structure. Et c'est parti un peu comme ça. Mais il a fallu un petit crash test. Mais ce crash test a été positif et c'est ça qui nous a stimulé. On s'est dit, bah vas-y, let's go, fonçons, quoi. Et c'est parti un peu de ça. Et donc, ces 6 premières années avant que Malo arrive, c'était vraiment voir que c'est devenu au fil du temps une vraie agence de retail design ou de design d'espace.
Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour expliquer le retail design pour ceux qui ne connaissent pas?
Ouais.
Et ce que je pense que. Moi, je vois ce que vous faites, mais si vous deviez décrire vraiment l'activité.
Eh ben. Ouais. Je vais laisser le bord à Malo parce que Malo, pour le coup, quand il nous a quittés, il était responsable du global retail chez
Retail Marketing
chez Quicksilver.
Yes.
Et donc là, vas-y.
Le retail design, si tu veux, c'est vraiment l'expérience retail. Tu vois, tu arrives dans un magasin, ça a commencé de la vitrine, et après, tu as tout le design de la boutique. Tu vois, tu as le zoning, le parcours du client, ce qu'il va voir. Après, tu as une réalité qui est hyper intéressante en retail, c'est que tu as quand même une réalité business où tu te dis, OK, il faut mettre un certain nombre de produits. Il y a une espèce de rentabilité au mètre carré, ça reste vrai. Et notre taf, c'est un peu du coup de le que ça soit rentable, mais que ça se voit pas forcément non plus, tu vois. Donc ça soit.
Et que ça soit sexy.
Ouais, plutôt fluide et à l'œil que ça soit agréable. Mais si tu veux, tu as des vraies logiques en fait quand tu rentres dans un magasin. Pourquoi la table est là? Pourquoi tu vois les portants ils sont à telle hauteur? Les étagères, les lumières? Pourquoi c'est designé comme ça? Tout est modulable, on peut changer les collections, les vitrines, bon, et il y a vachement de choses. Et donc ça, c'est le retail design, en fait. Tu vois, c'est créer ton lieu. Et on parle souvent de destination aussi, tu vois, un peu comme...
dans l'hospitality.
Un peu comme tu vois, pour des hôtels ou des bars. Parce qu'en fait, tu sors un peu du... c'est un magasin, tu arrives pour acheter, oui. Mais tu as aussi envie que les gens, tu vois... j'ai envie d'y aller, en fait, juste parce que l'endroit est joli. Et ce qui était assez rigolo là-dedans, c'est qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de... une grosse trend en retail design qui était le calming, le soothing, tu vois, où c'était un mode genre, OK, il y a trop de bruit autour et tu crées des lieux où les gens peuvent venir, ça reste un shop, tu vois, mais où le mec est OK.
En fait, il va rester, tu vois,
il va rester, ouais, tu vois, cette espèce de bulle de confort où visuellement, c'est un peu plus épuré, c'est agréable, il y a moins de bruit, tu te sens bien. Et ça, c'était assez...
ça, vous le notez vraiment post-Covid? Ouais. C'est un trend qui arrive.
Il y a eu un vrai truc, ouais.
OK.
Ouais.
Complet. Franchement,
limite un peu de thérapie, tu vois.
Ouais.
Genre, c'est.
Tu vois, et ce qui est drôle, c'est que le Covid. En fait, avant le Covid, on faisait que du retail. L'hospitality, c'est arrivé là. C'est arrivé depuis que Malo est arrivé. Et on faisait que du retail. Et le Covid, littéralement, on prend le Covid. Et nous, notre activité, à ce moment-là, elle est quasiment 100% retail. Et donc, tout est fermé. Donc, nous, plus d'activité, quoi. Et là, pendant 3 mois, on fait OK, qu'est-ce qui se passe Et puis en fait, c'est reparti, mais comme en 40. Et là, c'est reparti avec une volonté où tu avais vraiment les gens se disent, OK, si on veut faire la diff, il faut qu'on ait quelque chose de crafté, il faut qu'on ait vraiment un ADN puissant.
Ouais.
Et tout ça, en fait, tu es obligé de t'entourer pour pouvoir délivrer ce que tu attends. Et puis, c'était cool.
Puis un côté boutique, tu vois. Alors, nous, on reste quand même sur des surfaces qui sont, on va pas te faire 400 mètres carrés. Enfin, on l'a jamais fait, pourquoi pas, à la limite. Mais si tu veux, il y a quand même une volonté de se dire, ça reste des surfaces qu'on peut contrôler mais il y a cette volonté de faire un univers crafté comme disait Pierre, un côté un peu boutique, tu vois, où tu vas travailler chaque détail. Ça fait partie du retail design et en fait c'est vague parce que ce soit une marque de cosmétiques ou tu vois une marque de sport ou peu importe le client, mais du coup les univers tu peux taper dans les normes
ça va de l'effet waouh, tu rentres, tu passes devant un magasin ou une entrée, tu fais waouh, à réfléchir à comment ce petit display pour un petit baume à lèvres d'une marque de cosmétiques qui doit vivre dans un Sephora, tu vois, enfin genre c'est ça.
Parce que du coup retail design ça va t'englober, tu vois, le flagship, donc tu vois, si tu veux, dessines vraiment tout le magasin iconique pour la marque, et après nous dans ce qu'on fait tu as aussi les vitrines, campagne de vitrine, les activations, les displays en magasin, il y a les pop-up stores, corners éphémères, des corners permanents, il y a tout ça en fait qu'on fait aussi et qui tombe dans le retail design, tu vois, t'arrives à...
Les pop-up c'est intéressant parce que ça a été à un moment donné, je pense que ça l'est toujours, mais c'était vraiment un peu la marque de fabrique de Works, quoi. Genre on était un peu identifié en mode, on recevait beaucoup de demandes entrantes en mode bonjour, on cherche à faire des pop-up, enfin on a besoin de faire un pop-up. Et il paraît que, enfin on a entendu parler de vous, il paraît que c'est vous qu'il faut venir voir. Et ça c'était cool parce que t'as un vrai côté, et c'est là où tu vois, ça devient le taf d'une vraie agence, c'est que quand tu fais du pop-up, faut dessiner le truc, faut le build, faut le fabriquer, faut l'installer, faut le désinstaller. Et ça, et par moment, tu passes presque plus de temps à organiser la logistique de tout ça que vraiment...
Fois que le projet est fini,
c'est un taf de fou. En fait, on pense qu'on est juste là à dessiner des choses, mais il y a tellement toute une partie derrière d'organisation.
Le rendre réel, en fait, si tu veux, parce qu'il y a cette volonté de ce qu'on va dessiner et proposer. Que le client, tu vois, puisse l'avoir en réel un moment et surtout que ça soit faisable, en fait, tu vois. Donc on garde toujours ça en tête quand même quand on dessine quelque chose, c'est soit on a en tête exactement le fournisseur ou les personnes ou les ateliers avec qui on va bosser, soit on est capable complètement de donner le full detail, tu vois, de ce qu'il faut faire, où le produire, comment s'organiser. Parce qu'on a vu ça aussi des cas où tu as des clients qui arrivent avec des projets, on a ça, Ah, c'est génial, mais là.
En fait, si t'as pas 3000 euros, c'est un peu
ouais, faisable, ton tu truc, vois,
quoi.
Genre.
Et puis là, tu te rends compte que le mec, il te dit, bah, en fait, non, j'ai 20 000 euros, quoi. Je dis, ah, bah, ok, donc t'as.
Et ouais.
C'est toujours, faut trouver le bon curseur, quoi.
Ou sinon, tu vois, c'est ouais. Genre, mais vous l'avez trouvé où, du coup, ce projet? Enfin, elle sort d'où la 3D?
Ouais.
Oh, c'est un 3Diste d'une agence, ouais. Machin. Donc, oh, ok, mec,
ouais, ouais.
C'est gentil, mais là, ton pop-up en plexiglas qui fait, tu vois.
Il y a un cas concret.
Ça marche pas, en fait.
Un cas concret qui est très drôle, c'est que souvent, dans les typologies de clients qu'on a, donc, on a soit les marques, soit les lieux. Et ça nous arrive qu'on ait des grosses agences qui font appel à nous. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir des grosses agences, si j'ai pas de honte à le citer, tu vois, du Buzzman ou du Havas, c'est Buzzman. Tu me dis, putain, les gars, on a imaginé ça. Voilà les concepts de nos créatifs. Et là, ils arrivent avec des 3D, mais genre, tu vois le truc, tu fais, mais. Effectivement, c'est charmé, c'est waouh de ouf. Tu mets l'impression que les mecs font des trucs sur Midjourney.
Oui,
tu vois,
voilà,
mais,
quoi.
Et puis, ils te disent, bon, maintenant, je veux le faire en vrai, mais j'ai 10 000 euros. Je me dis, mais en fait, là, poteau, là, il y a du marbre, il y a des trucs, il y a 4 mois de sculpture sur mesure. Bah non, en fait, c'est pas
ouais,
possible, quoi,
pas,
genre.
Ouais.
Et nous, on
mais
a.
C'est rare quand même, parce qu'on a la passe ouais. Qu'elle a toujours. Tu vois,
on essaie toujours de. Enfin, on s'efforce de ce qu'on propose. On sait qu'on va pas t'inventer un truc irréalisable, on va t'inventer un truc que d'une, on va pouvoir maîtriser sur la fabrication, l'installation.
Ouais.
Et ça, je crois que c'est assez important. C'est-à-dire qu'il y a un côté où tu gardes les pieds sur terre et tu.
Ouais, t'es pas là pour bullshit le client, surtout.
Ouais.
Tu vois
ouais.
Ce que je veux dire. En
et fait, à la fin, et pareil, parce qu'il y a tellement des cas où quand une fois qu'on a le t'arrives sur le rendu final en 3D parce que tout à la base quand même tout finit
tout part d'une 3D,
ouais. 3D et ben quand tu poses ta 3D que tu prends ta photo de la réalité du projet livré
c'est la
tu,
même
tu
chose,
peux jouer ouais. Au jeu des 7 différences quoi enfin,
ouais.
et en gros il y en a pas et il y a tellement de projets où je genre sur des projets où les mecs ont je vois la 3D je vois ce qui sort et là je fais mais moi si je suis le client mais je pète un câble quoi genre en fait c'est pas, tu vois il y a deux mondes quoi c'est.
Parce que pour vous, c'est quoi la définition d'un bon retail designer? Tu vois, t'en parlais, Malo, tout à l'heure, en disant on doit servir la notion de business, tu vois.
Mm-hmm.
T'es quand même dans un shop, tu dois vendre quelque chose. Et tu vois, dans un brief, t'as le brief créa,
mm-hmm.
Mais t'as aussi mettre ta créativité au service du chiffre d'affaires, tu vois. Est-ce que ça rentre en compte, tu vois, dans la définition d'un bon retail designer, tu vois, où vous avez quand même cette notion de BP, tu vois, de se dire en fait
obligé,
ce
ouais.
À quoi je pense, ouais. Ça doit servir, tu vois, la vente
ouais.
Et
ouais.
Pas que la créa, tu ouais. Vois, et le côté waouh. Et...
C'est ça, non, t'es obligé, toi, il y a un peu le côté, on se rappelle dans les expériences qu'on a eues dans le passé, tu vois, les ventes et le marketing, c'était un peu censé, tu vois, être une team, tu vois, à chaque fois, les mecs bossent ensemble, et en vrai, c'est un peu le fight à chaque fois, ce qui est
ouais.
Hyper bizarre, et t'as l'impression que c'est même un truc historique où les gens s'enferment dans ce truc-là, et se disent, non, mais sinon, vente et marketing, ça marche pas. Et t'es genre, ouais, bon, ok, a priori ça peut marcher.
Mais ouais, alors qu'en fait, sans vente, pas de marketing, ouais. Et sans marketing, pas de vente. En
ouais,
fait,
c'est que, mais c'est vraiment une attitude un peu bizarre. Et, mais du coup, ouais, en retail design, t'es obligé d'allier tout ça. Et t'es obligé de capter le. Et puis les objectifs, tu vois. Pourquoi on a monté ce shop? Est-ce qu'on veut faire, tu vois, 100% de chiffre d'affaires?
Ouais.
Est-ce qu'on veut faire image et chiffre d'affaires? Est-ce qu'on veut faire que de l'image? Quel type de produits vont être dedans? Quel type de collection?
On a rarement des projets que image. Et je pense que ça, c'est quand même un truc qui demandé, est très,
ouais.
Très luxe.
Ouais.
Tu vois, il n'y a que le luxe qui peut se permettre, tu vois, de dire. Bon ben voilà, Jacques Mus qui va faire son pop-up au lac de Côme et qui se loue un truc. Enfin, c'est pas possible que le truc soit rentable, tu vois. Genre, et là, on est vraiment sur de l'éphémère, on crée un peu du
waouh. Peut-être qu'il l'est, tu vois.
Il y a un côté très, ouais, très, très, voilà, c'est une cascade RP, c'est-à-dire qu'on va en parler,
ouais,
il va en avoir
plein
dans les médias. Mais je suis pas sûr qu'au final, alors que nous,
c'est quasiment... Mais c'est pas une volonté, tu vois, en fait, c'est les objectifs
qui sont tous les projets où les mecs viennent nous voir. Et que souvent, quand c'est des implantations dans du department store, genre tu vois, du Bon Marché, de la Samaritaine, du Stadium, le mec qui vient casquer, qui loue un emplacement éphémère, qui vient créer une zone, qui vient mettre en avant ses produits, il attend un retour sur investissement. Et nous, on est là pour essayer de l'accompagner là-dessus, pour qu'il y ait un retour, et que ça soit cool, et que ça soit joli. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire que.
Est-ce que ça ressemble à quoi, du coup, en termes de. C'est beaucoup d'opérationnel?
Le taf, tu veux dire, le quotidien?
Ouais, votre quotidien. Il y a quand même de la construction.
Ouais, ouais,
ouais.
Il y a tout ça. Bah, si tu veux, t'as toute la partie, tu vois, découverte du brief avec le client, vraiment comprendre ses besoins, savoir où il veut aller. À partir de là, en fait, tu vois, alors ça, c'est hyper intéressant quand tu fais du retail design ou même au quotidien à l'agence. Toi, t'as un client qui arrive et surtout en retail, du coup, même en activation. Si c'est un client qu'on connaît déjà parce qu'on travaille avec lui, tu vois, depuis plusieurs saisons, t'es dans un espèce... T'es bien, tu vois, t'es dans un espèce de quotidien qui fonctionne bien. Si c'est un nouveau, il faut se replonger dans tout l'ADN de la marque. Parce qu'il y a vraiment ça aussi, tu vois, quand tu fais du retail design, tu as l'ADN de marque où il faut être sûr que toi, tu as ta vision en tant qu'agence, la marque, elle veut aller dans telle direction. Mais il faut être sûr que l'ADN de marque, elle soit pas diluée, tu vois. Parce que la marque, elle a son histoire et là, elle se réimplante avec cette, un espace physique. Et donc, bah, tu as pas mal de temps de passer là-dessus, vraiment comprendre la marque, qui elle est. Tu vois, vraiment, on prend tous les brand books, on s'infuse de tout ça, si tu veux. Et après, tu as toute la partie design. Donc après, on design les allers-retours. Et une fois que c'est validé, si on est en charge de la prod, là, tu as toute une partie gestion de projet un peu logistique.
Ouais, c'est ça. Donc,
tu vois,
sur la partie retail, moins sur la spécialité, mais sur la partie retail, en général, c'est tout part d'un concept 3D, fichier technique, et ensuite, une fois qu'il a les fichiers techniques, le client, il est libre d'aller le faire fabriquer où il veut. Et en général, quand le client vient voir, tu vas nous voir en tant qu'agence, il veut qu'on l'accompagne, tu vois, du début jusqu'à la fin, il est là, bon, bah, trouvez-nous les fabricants. Et c'est ce qui a aussi fait notre force, c'est qu'en 9 ans, aujourd'hui, on a un réseau d'ateliers, de fabricants, ça va du petit artisan au fin fond de la Provence, ou si tu as besoin d'une usine qui te fait de l'acier en masse, tu vois, à Valence, en Espagne. Tout dépend, en fait, si ça devient des projets un peu plus industriels, s'il faut sortir du display. Mais surtout, ce qui est sur mesure un peu, on est capable de, bah, tu vois, on est capable de te faire des objets genre sur mesure. Genre, il y a beaucoup de choses sont comme ça. Moi, je repense à la grande Vans géante qu'on avait faite, tu vois.
C'est du bespoke, ouais, quoi, tu ouais. vois, c'est vraiment les pièces un peu uniques. Mais tu sais que du coup, pour les sortir, nous, on a un suivi parce qu'on encore une fois, si on est en charge de la prod, on veut s'assurer que ça soit vraiment, tu vois, comme on l'a dessiné, comme on l'a pensé. Et donc, ouais, il y a une partie suivi de prod, mais qui est cool, en fait.
Vous n'avez pas un atelier où vous bossez pas avec un atelier dans lequel...
On a plusieurs ateliers.
Si, ouais.
Ouais, on bosse avec plusieurs ateliers. Il y a des ateliers avec lesquels on travaille plus que d'autres, tu vois, suivant les projets. Et ça fait partie un peu du taf, en fait, donc, qui a été construit sur les 8 années. Ouais, c'est ça. Qui est en fait se construire un carnet de fournisseurs, tu vois. Parce que ça, c'est une des grosses difficultés, c'est avoir les bons partenaires avec qui tu peux bosser, tu vois, toute l'année.
Et dérouler tes idées, quoi.
C'est ça.
Ouais, et puis les mecs, tu vois, t'as confiance en eux, tu vois. Tu sais que si tu l'appelles pour imprimer ça ou pour fabriquer ça, il n'y a pas de stress, ils vont comprendre, la qualité sera là. Et dans les timings, pareil. Mais ça, tu vois, ça se construit, c'est une relation de confiance avec les fournisseurs, c'est de la visite aussi.
Mais c'est
pas mal de visites d'usine. Aller voir les gars.
Mais c'est une bonne question, ça. On avait eu des sujets où il y a eu des groupes qui nous ont approchés, qui sont plutôt des gros fabricants, genre limite des gros fabricants de PLV. On citerait pas le nom, mais c'est un énorme groupe français qui fait tout le retail travel, tu vois, de L'Oréal, des choses comme ça. Et à un moment donné, les mecs, ils voyaient que nous, on bossait avec des marques un peu sexy, lifestyle. Et ils nous ont approchés, il y a eu pendant un an et demi des espèces de négo, ils voulaient nous intégrer à leur groupe. Et donc, en fait, tu captes que tu as ce côté, genre, tu as les mecs qui fabriquent et tu as les mecs qui peuvent dessiner. Et c'est complémentaire, mais faut pas se tirer dans les pattes, quoi. Et tu captais que le mec fabriquait, tu disais, mais il peut te dire, je peux tout fabriquer. Mais très bien, mais tu peux tout fabriquer, mais il faut qu'il y ait un fit humain, parce que c'est pas de fit humain, tu vois, on peut pas. Et donc on s'était posé la question de se dire, est-ce que ça serait pas intéressant qu'on ait pas nous-mêmes notre propre atelier? Mais au final, notre propre atelier, les projets sont tellement divers et variés que c'est plus intéressant de garder cette agilité où on va pouvoir
choisir
avec qui on bosse. Et demain, voilà, il faut délivrer un intérieur pour une boutique ou un resto à Lille ou à Marseille. Bah, évidemment qu'on ne va pas prendre un atelier. Enfin, tu vois, tout dépend, en fait.
Ouais.
Et donc, le fait, si un jour on avait demain notre atelier, ça serait intéressant, mais ça serait pour... En fait, je pense que c'est deux activités complètement indépendantes, mais complémentaires, mais qui ne se gèrent pas de la même manière, quoi.
C'est ça. Mais ce qui est important, ouais, c'est vraiment avoir cette relation avec les fournisseurs, tu vois. Et je pense que c'est un peu comme un resto avec ses... Je pense à ça maintenant, mais avec ses fournisseurs, tu vois, de poissons ou de légumes, ou tu vois...
Voilà. Un resto de fruits de mer en Normandie, il ne va pas aller chercher, tu vois, son poisson en Méditerranée.
Mais par contre, après, tu as ce côté, je pense, où tu...
C'est peut-être une grosse connerie, là.
Non, c'est pas mal, mais...
Non, ça fonctionne.
Moi, j'étais plus parti sur le côté, genre, tu vois, tu as confiance en tes fournisseurs, tu sais que si tu veux des carottes comme ça, il va te les fournir avec la qualité. Mais voilà, ça fait partie du taf, quand même. Ce côté opérationnel, c'est ce que tu demandais, non, comme...
Ouais, carrément.
Comme question.
Très clair. Et racontez-moi un peu comment vous êtes passé, comment on passe du retail à l'hospitality. Moi, j'ai une bribe de réponse, mais je trouve ça intéressant d'avoir votre lecture là-dessus sur tu vois,
genre,
pas de destination, d'expérience. Je pense que
destination, en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas pour des marques, c'était de transformer, tu vois, des lieux de marque en tout cas, voilà, de marque de vêtements, whatever, mais en destination. Et puis petit à petit, c'est un peu de manière naturelle que les vraies destinations que sont, tu vois, un hôtel, un bar, un resto sont venues comme ça. Et le grand saut, il s'est fait avec le surfing.
Il y a le surfing et Balm, ouais. Balm,
ah oui, il y a eu Maison Balm.
Maison Balm, ouais.
Maison Balm, pour donner du contexte, Maison Balm, c'est un C'est un traiteur qui fait que des produits à base de
truffes.
De truffes.
Ouais.
Truffes. Qui s'est implanté dans les Halles. Qui a commencé aux Halles de Biarritz, puis Halles de Saint-Luz, et puis maintenant le mec est partout. Et on lui a développé tout un concept de
franchise en fait.
De franchise. Quand demain t'as un mec aux Halles de Lyon, tu vois, qui veut ouvrir un corner balm. En fait, il a tout le kit sur comment s'installer, la mise en place, ses guidelines de merchandising, sa terrine, où est-ce qu'elle va, ces trucs comme ça, tu vois.
Et puis les matériaux, en fait, ils étaient...
Ça, c'était le premier test.
Ouais, ils étaient venus nous voir pour ça, ils se développaient et il fallait créer cette espèce de brain book, tu vois, ce 101 deck où tu étais dessus et tu dis, ok, demain, comme disait Pierre, je m'installe là, bah, je mets, tu vois, tel carrelage au mur ou telle faïence, tel matériau ici, la couleur, c'est ça. Et donc, comment on en est venu du retail hospitality ça répond, c'est le design en fait qui répond à la question, tu vois. Les gens viennent, ils te font, bah, tiens, je veux faire ça, j'ai cette problématique. Et en fait, ce qu'on dit souvent, parce que les gens nous posent la question, mais tiens, tu fais de l'action sport, du skate, du surf, du resto, et on leur dit juste, bah, ouais, après, il y a le design au milieu et le concept. Et tu vois, les gens viennent et on répond juste avec. On répond, tu vois, à la problématique avec le design et l'envie de créer un espace qui soit agréable, en fait.
C'est ça.
Donc, je pense que c'est comme ça qu'on y passe. Et après, on a quand même tous les deux. On kiffe l'expérience hôtel ou restaurant, tu vois. Parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Et même quand on voyage, tu vois, on porte une attention où on va, tu vois, on fait. C'est agréable, tu vois, tu rentres dans un endroit où c'est hyper joli, t'es bien, tu te sens bien, il y a des petits détails, tu vois, un peu partout. C'est cool que t'as un peu boutique hôtel ou restaurant brandé, tu vois, parce que ça, c'est vachement bossé aussi, les brandings de.
Ouais, ouais, on revient à cette notion où, autant en retail, bah, le but du jeu, c'est que t'achètes. Et dans l'hospitality, l'objectif,
c'est que tu restes.
Voilà. Ou alors, ou que tu consommes, tu vois. C'est pas j'achète et je pars. C'est je consomme et je passe du bon temps. Et en fait, c'est de l'expérience. Et de vendre de l'expérience où t'as envie, voilà, t'as envie de tout prendre en photo, tu dis, ah, je suis bien, je suis à l'aise.
Ouais, parce que
c'est un peu ça.
Tu vas les traiter comme des marques, en fait. Tu sais, il y a de plus en plus. Voilà, on l'a pas inventé, en fait, hein, tu vois. C'est
les
juste
comme des marques, et les marques, on les traite comme des lieux, et les lieux, on les traite comme des marques.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a. Ouais.
Mais si tu veux, il y a ce truc-là où tu sens qu'il y a cette vibe aussi, tu vois, même globalement, hein, que ce soit aux US, tu vois, en Australie ou en Asie. Et c'est quand même super cool que les gens prennent ce virage-là. Et du coup, ouais, c'est traité comme des marques, t'as un vrai branding, tu disais, Pierre, toi, t'as envie de prendre en photo, comme quand t'arrives dans un shop et qu'il y a un truc qui est chambé ou sur une expo. Et ça, c'est quand même un super tournant. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question, qui faisait des restaurants avant? Parce que c'est les agences, des architectes de restaurants, ça existait, tu vois.
Non, mais t'as des appellations de dingue, genre, là, tu vois,
on revient
de maison à l'objet. Et genre, ça nous arrive, on va se présenter sur des stands de marques. Et t'as des mecs qui font, ah, vous êtes standiste. Mais genre, non, on n'est pas standiste, quoi. Genre. Et t'as encore cette notion où chacun est dans sa case.
Ouais.
Genre, non, nous, vraiment, ouais, on dessine des expériences dans la vraie vie, et ensuite on leur donne vie, quoi.
Voilà. C'est ça, ouais. T'as un côté conseil esthétique, sauf que c'est en. Quand je dis ça, c'est visuellement, tu vois. Sauf que c'est sur du dur, quoi. C'est sur du retail ou du concept.
C'est vraiment l'ADN de Works. On a toujours voulu placer le design en haut du prisme de toute décision. Et on part du principe que si t'as un bon design au départ, bah, il va y avoir une espèce de cercle vertueux où il va y avoir un vrai ruissellement naturel où normalement ça devrait bien se passer. Si ton design il est bancal dès le départ, ton projet il va être bancal même à l'arrivée.
Oui, oui, ça fonctionnera moins. Ça, ouais.
Et donc ouais, on met une attention particulière à l'esthétisme et à l'expérience. Quoi.
Ouais, au détail, ouais. Et puis, en vrai, il y a aussi le côté opportunité, comme on a vu à l'hospitality, mais je pense que c'est les opportunités.
Mais ça, c'est les opportunités. C'est des mecs qui disent à force de. Voilà, mais vous faites du pop-up store. Ah, mais vous faites du flagship.
Au final, tu fais des lieux, quoi.
Tu fais des lieux, voilà. Et c'est comme ça, ouais. Et le dernier projet signature hospitality, c'est ce lieu iconique et le surfing à la
Côte des Basques.
Où ça avait été racheté. Et les mecs sont venus nous voir. Et puis, il y a eu un fit humain. Et on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on serait chaud de refaire tout l'intérieur d'un lieu comme le surfing? Et puis en fait, bien sûr, l'exercice il est tellement stimulant et sexy. Et je pense que tu vois, quelques années avant, peut-être on n'aurait pas eu.
Peut-être une question de confiance, toi.
Confiance, tu vois. Et là, au bout de 6 ans d'activité, tu sais, ok, là, on sait qu'on va pas bullshitter le client et qu'on va pouvoir délivrer ce qu'on propose. Quoi.
Tu vois, et puis même, il y a un côté confiance, maturité aussi, je pense, tu vois, dans l'approche où quand tu es avec le client, effectivement, tu vas comprendre ce dont il a besoin, et parce que lui, c'est pareil, il fait un investissement en faisant appel à une agence, t'as pas envie de lui faire perdre son temps, ni son argent pour le coup. Donc ouais, c'est plus nous en fait, on a eu l'opportunité, on s'est lancé, on avait dit on peut le faire aujourd'hui et on le fait, tu vois.
Et typiquement un surfing, il vient vous voir en vous demandant c'est quoi ça demande exactement, tu vois, c'est de dire j'ai envie de rénover mon truc,
c'est ça.
J'ai envie de repenser l'expérience,
c'est ça.
Et parce que tu vois le sujet qu'on trouve pas mal en hospitalité en ce moment, avec toute l'évolution qu'il y a autour des destinations, c'est jusqu'à maintenant, tu vois, on allait voir, tu demandais ce qu'on faisait quand on avait un resto il y a 10 ans, qui est-ce qu'on allait voir. Là, tu vois, en hospitality, t'allais voir un archi, il te pondait la rénov, un lieu joli, mais
sans plus, quoi.
Sans plus, il n'y avait pas ce sujet d'expérience, tu vois, en amont, de DNA de la marque, tu vois, de bosser le truc en amont, pour justement faire un design et une réalisation en adéquation avec ta promesse, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, comment vous lisez un peu le truc par rapport à une demande comme le surfing qui vient voir plutôt une agence qu'un archi ou qu'un designer de resto, tu vois.
En vrai, je sais pas trop, mais tu vois, ils viennent voir, je pense que c'est peut-être pour la vibe générale aussi, tu vois. T'as ça aussi, tu vois, ce que dégage l'agence, donc les gens veulent peut-être venir voir ces personnes en se disant, tiens, c'est les bonnes personnes. Il y a un côté local aussi, tu vois, nous on était là-bas, nous on est là-bas, tiens, en fait, ou c'est peut-être bouche à oreille. Et après, ils viennent, et donc voilà, bon, on a acheté le spot. On veut refaire ça, quelques images de mood si tu veux, les gens veulent aller là parce que tu as envie de comprendre un peu la direction où ils veulent aller. Il y a un truc qui est hyper important et je pense que ça dépend des restos, mais en l'occurrence les gens qui avaient ce projet qui sont venus nous voir, ils allaient être dans le restaurant, tu vois. C'est eux qui allaient tenir la maison.
Ouais, ils allaient incarner le lieu, quoi.
Et ça, c'est hyper important parce que tu vois, ils vont. En fait, ils
c'est hyper. On va creuser là-dessus, je pense.
Ouais,
c'est
un parce vrai que point. Tu vois, ils ont une direction.
C'est bon d'elle, ça.
Ils ont une direction. Nous, on va les accompagner, on va les amener un peu plus loin parce que c'est notre rôle aussi, tu vois, de les accompagner là-dessus. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'ils vont être dedans tous les jours.
Du groupe Accor.
Voilà.
Tiens, j'ai un billet,
et ça change la donne, si tu veux. Parce que il faut être sûr que l'endroit qu'on va leur dessiner, il soit confort avec. Et ça, c'est important, tu vois. Et donc, jusqu'au bout, jusqu'au moins de détails. Et puis après, tu vois, c'est beaucoup aussi de compromis en disant, OK, vous préférez ça, mais on l'intègre, on va faire en sorte que ça rentre dedans pour qu'il soit confort avec. À l'inverse, je pense, tu vois, c'est un mec qui est plus en mode investisseur ou, tu vois, une dame qui est plus ou moins investisseur ou, tu vois, qui veut faire ça. Si elle n'est pas dedans, au final, elle peut faire un truc où il peut faire un truc un peu plus blank, tu vois. Ils sont pas dedans, donc au pire, tu vois, c'est un concept, puis voilà, c'est important, ça, ouais.
Et je trouve qu'à la différence du retail, tu vois, dans l'hospitality, là où le design, ça sert à un usage, tu vois, là, dans l'hospitality, l'usage, il doit servir ceux qui tiennent, tu vois, les tauliers, quoi, ceux qui tiennent le lieu.
C'est ça.
Et je pense que pour vraiment vendre une expérience, tu vois, ou donner une continuité à ce qu'on pense en termes d'espace et de design, d'archi, etc., faut que ce soit porté soit des fondateurs ou tu vois des gérants qui incarnent vraiment la promesse.
Mais
tu vois.
Je pense que
sinon ça marche
le
pas.
Le mot incarnation, non, c'est vraiment le mot fort. C'est.
Et puis il y a l'humain, tu vois. Enfin, t'as forcément le. Alors ça dépend encore des concepts, mais il y a dans des villes, enfin comme Biarritz en l'occurrence, c'est des villes quand même très destination. T'arrives à la Côte des Basques et t'as envie de. Tu vas voir ces gens-là en fait. Tu vois, tu rentres dans un endroit parce que tu sais qu'il y a cette personne-là qui est derrière. La vibe que ça va te générer, ou tu vois, et ça c'est hyper important. Ouais.
Ça, vous arrivez à le faire intégrer à des porteurs de projets, tu vois, genre l'importance d'être en adéquation avec ce que tu veux, parce que tu vois, t'en as plein, ce que tu disais, Pierre, tu vois, un sujet comme des grosses boîtes comme Accor, eux ils veulent un trend et ils vont te dire, tu sais quoi, mettez ça sur le lieu, après t'as personne pour le porter, tu vois, et du coup, ça crée une rupture, tu vois, dans l'expérience, et y a un vrai sujet d'éducation, tu vois, en tant qu'agence, de se dire, comment je fais comprendre à mes clients que les gens qui sont derrière doivent porter toute la promesse qu'on met sur papier, quoi.
C'est la continuité du design et du concept, tu vois. Ouais. Il y a une vraie pédagogie là-dessus. Hein. Après, généralement, on ne va pas se mentir, les gens qui se lancent quand même dans la restauration ou dans l'hospitality, ils ont cette fibre, tu vois.
Ouais, je suis entre deux là-dessus, tu vois. Je pense que jusqu'à maintenant, oui, mais tu vois, post-Covid, tu as beaucoup de gens qui sont en mode changement de vie. Okay. Et je m'achète un corps de fer, mais je veux faire un gîte trop cool, retraite, whatever, tu vois.
Je veux avoir une enseigne en PVC dégueulasse avec marqué kebab, frites, pizza. Mais ça, c'est sûr que.
Oui, il faut incarner. Après, t'as une vraie pédagogie. Après, par contre, c'est un super créneau de business, ça. côté pédagogie, hospitalité.
Formation.
Ouais, enfin, tu vois, un peu la marketing, marketing de l'hospitalité.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce qu'au final, tu vois, genre, en général, sur des lieux comme ça, quand on accompagne des lieux, on pousse le détail un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment les accompagner, on va leur faire aussi des assets digitaux pour leur donner des consignes sur comment communiquer, tu vois, prendre
comme
la parole.
Comme ça, jusqu'aux playlists, ouais. Ça va. Donc ça, si tu veux, quand on bosse avec les clients, c'est des sujets, si tu veux, on les balaye, on fait le full scope, branding, logo, tout ce qui va être, tu vois, les outfits des...
du staff et tout.
Le menu Maxi Best Of.
Ouais, tu vois, t'as jusqu'au design du menu, et puis après, t'as les playlists, et puis voilà, et après... Les gens choisissent ce qu'ils veulent faire ou pas. Mais en tout cas, nous, c'est des sujets qu'on balaye. On dit ça, c'est important, celui que ton concept soit, tu vois, carré jusqu'au bout. C'est des leviers qui peuvent être bien, quoi. Réseaux sociaux, enfin, un peu
c'est
classique.
Quoi?
Mais c'est du marketing, après,
ouais,
hein,
ouais.
En vrai. Hein.
Il nous reste 10 minutes, les gars.
Okay.
Est-ce que c'est quoi un peu la... Comment vous voyez Works dans... Allez, on va se faire un short term 10 ans.
Un short term 10 ans. On ne sait pas ce qu'on fait semaine prochaine, donc c'est un peu...
J'allais vous dire 5, mais en fait, drôle.
En vrai,
5, ça passe vite.
C'est une excellente question. Je pense ne pas me tromper déjà de départ en te disant que quand tu montes une agence comme ça, tu as plusieurs typologies d'évolution. C'est soit quand tu scales et que tu grossis, bah, tu es obligé de t'accompagner. Donc, soit on allait devenir une agence qui prend un plus grand bureau, puis avec plus de personnes. Et ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se retrouver à être l'agence qui pilote 20 salariés. Ça, on a envie de garder ce côté plutôt petite structure agile et créative et par contre on fait grossir un pool de talents et dans 10 ans je sais pas, j'espère qu'on sera toujours à Guétari. Ce petit bureau de Guétari fait très plaisir, mais moi je le vois plus sur la diversification, c'est-à-dire qu'on va continuer de faire du design, mais ça va peut-être bouger sur de l'objet plus que sur du lieu. De l'édition, des choses comme ça, je sais rien, mais...
S'adapter, mais ouais, je rejoins Pierre sur le fait que ça soit une structure qui reste à taille humaine, tu vois, ça c'est important.
Ouais. En tout cas, donc, ce qui est marrant, c'est que la structure qu'on a quand même créée à Biarritz, moi j'ai passé 5 ans full-time à Paris pour développer aussi cette activité, et je peux dire quand t'as plus de 30 balais, que t'as déjà vécu 15 ans à Biarritz, et que tu te rends compte qu'il faut venir t'installer à Paris parce que t'as besoin d'accompagner la croissance de ta boîte, tu vas un petit peu en traînant des pieds à Paris, quoi. Parce que tu kiffes Paris, mais tu ne t'y voyais pas y vivre un full time. Et là, c'est 5 années qui nous ont permis de franchir un cap. Et moi, je suis arrivé à un stade où Paris n'avait plus besoin de devenir la résidence principale. Et ça, c'est cool. Et j'aimerais en tout cas dans 10 ans ou 5 ans, je nous souhaite de pouvoir garder cette qualité de vie où on n'est pas obligé d'être dépendant d'un lieu qui est inspirant, mais qui n'est pas un lieu dans lequel on se projetterait et on y vivrait tous les jours, quoi. Ça, c'est certain.
Donc c'est plus de défendre une qualité de vie qu'une croissance business.
Il y a une qualité de vie, mais une qualité de travail aussi, si tu veux. Enfin,
La croissance, tu vois, genre, gardons-la. Mais demain, tu me dis, on fait le même chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui tous les ans. C'est bon, moi ça me va, on s'arrête là. On n'est pas dans cette recherche de dire faut plus. On a toujours eu une croissance continue. Donc dans 8 ans, il n'y a pas une année, on a fait moins que l'autre. Il y a eu des grosses années, il y a eu des années où on se dit un peu moins bien que l'année d'avant, mais toujours, tu vois, c'est plus. Mais genre, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moi, si on pouvait appuyer sur le bouton pause, et là, la croissance, elle s'arrête, et on est comme ça, moi, je signe, tu vois, enfin...
Et puis après, tu vois, je pense, dans 10 ans, t'as une question d'équipe qui est hyper importante, tu vois, aussi, la manière dont on se staff et continue à former, tu vois, des profils plus juniors, tu vois, mais qui peuvent grandir avec nous. Je pense que ça va être ça aussi.
Il y a ça, ouais.
La croissance sur 10 ans. Mais après, garder, comme disait Pierre, tu vois, au moins, il n'y a pas une espèce de méga croissance parce que nous, ce qui est hyper important et en format d'agence, c'est ça. C'est, tu vois, les gens disent pourquoi ils viennent vous voir. Enfin, en fait, ils viennent nous voir, nous, déjà. Tu vois,
ouais,
en tant qu'humain.
C'est l'humain, ouais, tu vois. On n'avait jamais eu de site web. Il a fallu on a un site qui sort, mais il a fallu attendre du temps pour qu'on ait un site. Et tout ce côté un petit peu vraiment organique et qui marche au feeling et à l'instinct, c'est ça qui donne le petit charme.
On a envie de pouvoir, tu vois, recevoir les briefs en propre, parler avec les clients. On n'a pas envie, tu vois, de recevoir un brief, faire un transfert, le passer à quelqu'un et tiens, tu gères ça. Il y a ce côté où du coup, on a envie de pouvoir, tu vois, chaque client, les traiter, prendre le temps, passer le temps avec eux. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'à terme, on ne sera pas... une méga agence, et tant mieux en fait, tu vois. Enfin, c'est pas le but, sinon on serait pas installé à Biarritz forcément, on serait mis ailleurs. Puis voilà quoi. Carrément. Et garder cette qualité ouais, de relation avec le client, ça c'est le. C'est un peu important. Voilà. C'est ce qui nous fait kiffer aussi quand même, tu vois. Donc,
Trop bien. Bon, merci les gars.
Eh ben, merci à toi.
On est pas mal là, on a fait 45 minutes, ça passe vite. Je pourrais faire plus moi. Après on a un sujet de batterie, on va dire la vérité quand même.
Il y a un sujet de batterie.
C'est qu'en fait il y a un sujet de batterie, on est sur le rooftop. Ouais. Ils nous ont vendu dans le lobby une prise qui ne fonctionne pas. Et on touche les 1% sur l'ordi.
Le Mac, okay, bon.
Ah ouais,
bon. Mais à mon avis, c'est une petite raison pour se refaire un deuxième épisode.
Avec plaisir, moi, je voulais
gratter les sujets de network de Pierre.
Okay.
Ce qui alimente un peu la partie commerciale.
Tu viens, on se le fait au bureau à Guétari. Et comme ça, après, on se met aussi une petite session surf. Et après, on va manger au surfing.
Et voilà.
Moi, je veux surfer avec ma. Non, attention. C'est bon, ça s'entendra pas. Bon, c'est cool en tout cas.
Super.
Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Vous pouvez retrouver toutes les infos de Pierre et Malo sur la description de cet épisode. Si vous avez apprécié cet échange, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ça m'aide à remonter dans les classements et à faire connaître le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel échange. À bientôt sur Lobby Talks.
Il podcast della lobby.
Oh, bah. Avinella. Visto di lui.